10 saniye.
ישראל בונה, בשנים האחרונות, את מערכת המעקב אחרי אזרחיה המשוכללת בעולם. מערכת המבוססת על מצלמות מונחות בינה מלאכותית ומאגר המידע הביומטרי של משרד הפנים. הכל ללא פיקוח ציבורי כלשהו, ולרוב ללא ידיעת הציבור. בשנת 2017 כבר הזהירה התקשורת הישראלית על הסכנות של שילוב מצלמות עם בינה מלאכותית. מערכות המסוגלות לזהות את הנטיות המיניות של האזרחים, את רגשותיהם, את מעגל חבריהם ועוד מידע רב על יסוד תווי הפנים, תנועות הגוף ומעקבים. וכך נאמר על ידי קרן צוריאל הררי בסוף 2017. טכנולוגיית זיהוי הפנים דוהרת קדימה, והיום הן יודעות לזהות אם אתה הומו, אם אתה חולה במחלה נדירה, אם אתה בדרך לבצע פיגוע ואם השתתפת בהפגנה ואותך מסתתר מאחורי כובע וצעיף. ביום 19 לאפריל 2020 התפרסם בחול תחקיר של ערוץ ארטה החושף קצה הכחון של המתרחש בארץ. התקנת מאות מצלמות מקושרות למערכות בינה מלאכותית ברחובות, בנקים, בתי ספר, אוניברסיטאות תוך דריסה ברגל גסה את חוק כבוד האדם וחירותו. מהתחקיר עולה לכאורה כי בכירים לשעבר במערכת הביטחון הפכו את ישראל למעבדת הניסוי וחלון הראווה שלהם לטכנולוגיה זו, לאפשר להם לשווק בחול מערכות במאות מיליוני דולרים על יסוד הניסיון שרכשו על גבם, בריאותם ופרטיותם של אזרחי ישראל. החשד הוא כי עשו זאת תוך ניצול קשריהם עם עמיתיהם במערכת הביטחון ויצירת צורך ביטחוני מדומה, תוך ניצול המאגר הביומטרי ודחיפת אישור טכנולוגיית ה-G5 להעברת נתוני מצלמות בפס רחב. טכנולוגיית שידור החשודה לפגוע באופן חמור ביותר בבריאות הציבור. להלן תמצית של התחקיר באדיבות האתר nakim.org.
Plus rien n'échappe à cet œil qui ne dort jamais. Non content de nous scruter jour et nuit, 500 millions de caméras dans le monde prétendent désormais détecter nos émotions, repérer les comportements suspects et même prédire les crimes avant qu'ils ne se produisent.
Qu'est-ce que vous préférez ? Être en sécurité ou éviter d'être scanné par une intelligence artificielle ? Moi, je veux être en sécurité.
C'est très dommage qu'on ne perçoive pas le caractère paranoïaque donc en fait, de cette idée, hein, qui du coup implique comme réponse l'idée qu'il faudrait en permanence pouvoir surveiller tout le monde.
Une obsession sécuritaire qui, dans certains pays, est en train de donner naissance à un régime d'un nouveau genre, le totalitarisme numérique.
Ces violations des droits de l'homme impliquent clairement tout le monde, de Xi Jinping aux architectes de cet algorithme de la répression au Xinjiang.
Ce dispositif de reconnaissance faciale, la ville de Nice est allée le chercher dans un pays confronté depuis longtemps au terrorisme. Une nation qui a fait de sa sécurité son obsession et la condition de sa survie. Israël. C'est en banlieue de Tel Aviv, derrière les parois vitrées de ce bâtiment, que le logiciel testé à Nice a été mis au point. Créée en 2015, la start-up israélienne AnyVision a été l'une des premières à se spécialiser dans la reconnaissance faciale. Elle fait aujourd'hui partie des leaders mondiaux dans le domaine.
Voilà donc notre bureau. Nous avons environ 250 personnes en tout qui travaillent pour nous. Et 6 bureaux à travers le monde. Là, nous avons 150 personnes. Ça, c'est notre salle à manger. Si vous voulez prendre un café, vous pouvez vous servir. On a une machine à expresso fabuleuse. Je vais vous montrer comment nous accédons à nos bureaux et comment nous ouvrons les portes. C'est très simple, la porte s'ouvre avec votre visage. C'est l'avenir. Dans le passé, on ouvrait avec une clé. Demain, ce sera avec le visage.
En 4 ans, AnyVision a multiplié ses effectifs par 10 et pèse aujourd'hui plusieurs dizaines de millions de dollars. D'après son PDG, son logiciel est capable de reconnaître n'importe qui, dans n'importe quelle condition, avec une efficacité estimée à plus de 99%.
Voici comment fonctionne l'intelligence artificielle. Tout d'abord, on détecte le visage. Ensuite, on en extrait un modèle mathématique comme une empreinte digitale. C'est un modèle mathématique complet qui modélise votre visage et à la fin, il sera représenté par 500 millions de chiffres. Si je vous présente maintenant 500 photos de suspects et que je vous les montre comme ça, vous ne vous souviendrez peut-être même pas d'un seul de ces visages. Le système actuel, lui, peut apprendre 500 images en moins d'une seconde et les identifier dans la vie réelle. C'est quelque chose que le cerveau humain ne pourra jamais faire. Aujourd'hui, notre entreprise est la plus importante du monde occidental en termes d'effectifs. Nous sommes leaders dans ce secteur. Nous travaillons actuellement dans 43 pays. Ok, ça donne un petit aperçu. Nos produits sont aujourd'hui présents dans 43 pays. Et même dans le pays d'où vous venez. La France, c'est bien ça. Je pense que tout le monde sait que nous sécurisons aujourd'hui Nice, par exemple, là où l'attaque terroriste a eu lieu. Nous partageons votre douleur. C'est horrible ce qui s'est passé là-bas, d'accord? Et je suis de tout cœur avec vous. Nous faisons tout ceci pour vous protéger, les gars. Pour que vous soyez plus en sécurité. La logique voudrait que cette technologie soit utilisée partout pour nous aider à sécuriser la planète.
Banque, hôpitaux, école. Le dispositif de reconnaissance faciale d'AnyVision est utilisé partout en Israël. Y compris par la police, pour sécuriser la ville de Jérusalem. L'État hébreu est aujourd'hui l'un des principaux exportateurs de systèmes de surveillance dans le monde. Une expertise acquise au fil de l'histoire.
Nous avons commencé à investir dans l'intelligence artificielle visuelle, principalement pour des raisons militaires, il y a déjà plus de 20 ans. Vous savez, Israël est né pendant la guerre, il y a environ 70 ans, et la guerre n'est toujours pas terminée. Je veux dire, la situation s'améliore. On a signé des accords de paix avec nos vieux ennemis, mais pas avec tous. Se défendre est important. Nous sommes 6 millions de Juifs en Israël, entourés de 360 millions d'Arabes.
L'effet de l'occupation de la Cisjordanie et de Gaza, mais aussi le fait d'être situé au cœur du Moyen-Orient et de surveiller constamment l'intégralité des pays autour de nous, c'est ce qui a permis à cette industrie de se développer. Israël compte le plus grand nombre de sociétés de surveillance par rapport à d'autres pays. Et pour être tout à fait clair, dans 100% des cas, je ne connais pas une seule personne dans ces entreprises qui n'ait pas servi dans des unités de renseignement de l'armée. C'est ça la grande force d'Israël.
AnyVision n'échappe pas à la règle. L'un des fondateurs de la start-up n'est autre qu'Amir Kane, l'ancien responsable du Malmab, le service du contre-espionnage israélien. Et l'un des conseillers de la firme est Tamir Pardo, l'ancien directeur du Mossad. le système de reconnaissance faciale d'Any Vision serait depuis peu secrètement utilisé par les forces armées israéliennes afin de surveiller les Palestiniens en Cisjordanie. Les affaires prospèrent, avec les risques d'attentats.
Très souvent, lorsque vous vous rendez dans des salons en Israël dédiés aux technologies de surveillance, et c'est mon cas, vous entendez en introduction des discours sur la menace croissante du terrorisme en Europe, sur les risques d'attentats, etc. Évidemment, je ne dis pas que cette menace n'est pas réelle, mais au bout du compte, il s'agit d'apporter une solution à un problème. Et si vous voulez vendre une solution, il vous faudra communiquer sur ce problème et expliquer pourquoi votre produit est la meilleure solution.
Qu'est-ce que vous préférez ? Être plus en sécurité quand vous sortez dans la rue le matin ? Ou éviter d'être scanné par un système d'intelligence artificielle ? Moi, je veux être plus en sécurité. Quand j'emmène mes enfants à l'école, je veux qu'ils soient en sécurité. La façon dont on s'y prend m'est complètement égale, mais qu'on assure leur sécurité. C'est ce que les gens vous diront, et c'est pourquoi nos produits ont tant de succès et ont obtenu une place de choix sur ce marché.
En 15 ans, les actes terroristes sont passés de 2000 à près de 14 000 par an dans le monde. Quant au nombre de tués, il a été multiplié par 9. Comme un virus, la peur des attentats se propage. Et les villes se protègent. Donnant ainsi naissance à un tout nouveau secteur, celui de la vidéosurveillance intelligente. Un marché estimé aujourd'hui à près de 40 milliards de dollars, que certains appellent le marché de la peur.
C'est un modèle de société paranoïaque en réalité qui se cache derrière, où l'ennemi est parmi nous, est caché parmi nous, et c'est un de nos frères au fond parmi nous. Voilà. C'est très dommage qu'on ne perçoive pas le caractère paranoïaque donc en fait de cette idée, hein, donc qui du coup implique comme réponse l'idée qu'il faudrait en permanence pouvoir surveiller tout le monde, soi-même, ses frères encore une fois, hein, sa propre communauté, la surveiller en permanence parce qu'à tout moment quelqu'un peut venir vous planter un couteau dans le dos. C'est ça le truc. Pour arriver à un tel niveau de conception paranoïaque de la société, il faut soi-même être vivre dans la peur, en fait, avoir une représentation du monde complètement apeurée, quoi.
Est-ce que, finalement, vous n'êtes pas un peu paranoïaque ?
C'est vrai que quand il y a 86 morts sur la promenade des Anglais, on peut appeler ça de la paranoïa. C'est presque une vision. Si c'est de la paranoïa pour vous, non. Pour moi, ce sont des faits. Ce sont des menaces. La France est en guerre à l'extérieur et à l'intérieur, où nous avons affaire à des ennemis que moi je qualifie plus souvent de cinquième colonne qui avancent de manière rampante, telles des pieuvres, et qui tissent leur réseau de partout. Et que face à cette guerre qui nous est livrée, s'interdire d'utiliser un moyen qui pourrait épargner des vies, qui pourrait épargner des conséquences graves pour notre pays et sa sécurité, serait porter lourde responsabilité.
Des attentats qui ont été empêchés l'ont été par des renseignements humains. Deuxième chose, même dans l'enquête qui existe toujours à Nice sur d'éventuelles complicités, etc., qu'est-ce qui nourrit le travail des enquêteurs après coup, hein, mais c'est tous les éléments classiques de l'enquête de police judiciaire, hein, l'enquête de voisinage d'un côté, l'étude de la téléphonie, l'étude de l'ordinateur, voilà. C'est pas les caméras encore une fois qui n'ont fait que filmer l'horreur à l'instant où il se produit, c'est-à-dire qui n'ont servi rigoureusement à rien, véritablement à rien. Alors...
Depuis plusieurs années, la Quadrature du Net et la Ligue des Droits de l'Homme multiplient les recours juridiques contre ces expérimentations qui ne respecteraient pas le RGPD, le nouveau règlement européen de protection des données, adopté en 2016.
On a vraiment l'impression qu'effectivement, petit à petit, se basant sur l'expérimentation, se fondant un peu sur l'absence de cadre juridique de toutes ces nouvelles technologies, on voit effectivement se répandre plein de nouveaux dispositifs, technologies, d'outils surveillance. Et les élus et les acteurs qui sont dans ce milieu-là, bah, en profitent. Parce qu'en fait, on est dans l'opacité, on est dans le manque de débat public, donc on peut expérimenter et développer sans que personne ne s'en rende compte. Mais il faut justement lutter contre cette opacité, parce que c'est trop dangereux pour nos libertés.
Au cœur de leurs préoccupations, le fichier TESS, le fichier des titres électroniques sécurisés. Une base de données créée en 2016 et gérée par le ministère de l'Intérieur français. Elle regroupe l'ensemble des cartes d'identité et des passeports. Couleur des yeux, empreinte digitale, image numérique du visage. Ce fichier serait la première étape d'une surveillance de masse.
C'est le parfait outil pour la reconnaissance faciale de l'ensemble de la population. Parce qu'une fois que vous avez en fait le visage qui est identifié dans une base de données, en fait, vous mettez une caméra dans la rue avec couplée à ce fichier, et là, vous pouvez reconnaître et identifier toute la population tout le temps.
On est en train d'essayer de faire passer, au fond, comme une lettre à la poste, hein, comme dit l'expression courante, des choses quand même extrêmement importantes, hein, des formes de fichage biométrique de toute une population. Certainement qu'au début, ce sera toujours pareil, hein, c'est... Réservé d'abord avec toutes les garanties de confidentialité, réservé à un usage très précis, administratif, bureaucratique, machin. Jamais ça ne fera l'objet de fichiers connectés à autre chose, ayant d'autres usages. C'est toujours ce qu'on dit au début. Le seul problème, c'est que survient régulièrement un attentat qui crée une émotion générale et des discours politiques qui disent « Enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut utiliser tous les moyens qu'on a. Comment nous avons un fichier? On ne l'utilise pas. Mais enfin, ça suffit. On ne peut plus rester naïf face au terrorisme. Il faut utiliser, etc. » C'est-à-dire qu'en permanence, il y a des situations exceptionnelles qui viennent renverser la logique ordinaire.
Historiquement, la Chine contrôle certainement de façon plus profonde et minutieuse sa société que d'autres pays. Lorsque notre nation a été fondée, le pouvoir a emprunté beaucoup au modèle soviétique. Le système de dossiers, par exemple. Les autorités ont un dossier sur chaque citoyen où tout est compilé, y compris les mauvaises actions qu'on a pu commettre. Et ça nous suit toute la vie. Même si on change et qu'on devient meilleur, toutes les fautes qu'on a pu commettre, même si on les a réparées, sont inscrites à jamais dans notre dossier. C'est comme une tâche indélébile.
Ce contrôle social est sans limite. Et il suffit de prendre le train rapide entre Shanghai et Pékin pour s'en rendre compte. Depuis peu, voici ce que l'on peut entendre au moment du départ. Récemment, l'Empire du Milieu a décidé de mettre la société au pas en instaurant un système de notation qui récompense ou pénalise les citoyens en fonction de leur comportement. Un système baptisé « crédit social » expliqué dans une vidéo pédagogique. Cette notation désormais généralisée est officiellement un moyen pour le gouvernement chinois de lutter contre les incivilités. mais en réalité, il permet surtout de diffuser la morale communiste jusque dans les zones reculées. Comme ici, à Rongsheng, une petite ville côtière située au nord du pays. Rongsheng est l'une des premières à avoir expérimenté le crédit social. Le barème de points est affiché au centre de chaque quartier pour informer les habitants des règles à suivre.
5 points déduits pour la découpe illégale et le séchage de nourriture. 5 points déduits pour le brûlage d'ordures ménagères ou de feuilles.
Certaines de ces règles incitent clairement à la délation.
Signaler la participation à des sectes, les faux et contrefaçons, constructions illégales, 5 points de gagné.
À Rongsheng, ce contrôle social semble être plutôt bien accueilli par une population en mal de valeur morale. L'intérêt du groupe prime sur celui des individus.
C'est utile pour nous, les paysans qui veulent s'installer en ville. Ça nous fait réfléchir pour nous améliorer. Et puis le système de points qu'on ajoute, qu'on retire, pour les citadins, c'est bien. Cela permet de s'élever. Tout le monde veut avoir des points en plus pour devenir des résidents d'excellence. Chacun est responsable de son comportement, se surveille. Il faut avoir une bonne attitude, des bonnes habitudes.
Comment voyez-vous les gens qui sont mal notés?
Comment dire? Ceux qui ont des scores bas, on va un peu moins les fréquenter. Si on n'est pas vertueux, personne ne voudra vous fréquenter.
Se nourrissant de nos peurs et de la course effrénée à l'intelligence artificielle, le virus de la surveillance semble n'avoir aucune limite. Peut-on encore l'endiguer? Comment éviter que notre désir de sécurité nous conduise vers un futur dépourvu de toute humanité? La ville de San Francisco, berceau de la révolution numérique, a fait un choix radical. Par un vote quasi unanime de ses conseillers municipaux, la capitale de la Silicon Valley est devenue en 2019 la toute première ville au monde à bannir la reconnaissance faciale de ses rues.
Dans la mesure où nous sommes le siège et le symbole de la technologie, et ce depuis de nombreuses décennies, je veux dire depuis l'époque de Hewlett-Packard et de certains des pionniers d'Apple, cela nous confère plus de responsabilités. San Francisco doit montrer l'exemple. À mesure que je m'informais, que je découvrais dans la presse ce qu'il se passait en Chine, j'ai fait le parallèle avec le régime nazi des années 1930 et 1940. Ce régime s'appuyait lui aussi sur des entreprises informatiques, mais avec des technologies beaucoup moins performantes. Donc, j'ai voulu prendre un engagement. À San Francisco, nous n'utiliserons jamais cette technologie pour ou contre notre population. Je comprends qu'il y ait des gens qui n'acceptent pas cette décision parce qu'ils veulent des rues plus sûres. Mais nous avons d'excellentes forces de l'ordre à San Francisco. Nous avons un faible taux de criminalité. Aujourd'hui, je veux remettre le génie dans sa bouteille.
Oakland, Berkeley en Californie, Somerville dans le Massachusetts. Plusieurs municipalités aux États-Unis suivent déjà l'exemple de San Francisco et ont fait un autre choix de société. Refuser le meilleur des mondes. Et si finalement nous détenions la solution? Le pouvoir d'éviter la dystopie que l'on nous promet. Par un engagement fort, remettre le génie dans sa bouteille.